Bonjour, bienvenue dans le titre à la une, je suis Céline Kallmann. D'un parti marginal, quand il s'appelait encore le Front National, à aujourd'hui, le Rassemblement National devenu première force politique du pays. Comment expliquer cette ascension fulgurante? Qui sont les nouveaux électeurs du RN? Une chose est sûre, ils sont plus de 10,5 millions à avoir voté dès le premier tour des législatives pour le parti de Jordan Bardella. Les sondages avaient vu juste. Pour la première fois en France, sous la Ve République, l'extrême droite se hisse en tête du premier tour des élections législatives. À 20h, ce 30 juin, les premières estimations tombent.
Et c'est donc le RN qui arrive en tête de ces élections législatives avec 33% des voix, suivi du Nouveau Front Populaire, l'Alliance de Gauche, avec 28,5% des voix. Et enfin, Ensemble, la majorité sortante d'Emmanuel Macron, avec 22% des voix.
Le résultat est historique et la perspective d'une majorité absolue au second tour n'est pas à exclure. À chaque scrutin, au cours des dernières élections, le RN a vu son nombre de voix augmenter. Cette fois, précipitée par la dissolution anticipée d'Emmanuel Macron le 9 juin, la vague RN déferle en masse dès le premier tour. Sur les 76 candidats élus dès ce dimanche 30 juin, 39 le sont sous la bannière de l'extrême droite.
Au milieu de ces militants, Franck Giletti savoure. Il vient d'être réélu dès le premier tour, 53,5% des voix.
Beaucoup de fierté, évidemment, mais beaucoup d'humilité aussi, parce que la tâche est immense. Les Français, nos militants, savent dans quel état se trouve la France.
Des militants qui, pour certains, attendaient cette vague depuis très longtemps.
Une victoire qu'on attend depuis... Moi, personnellement, j'attends cette victoire depuis 50 ans. C'est déjà un très beau signal qui est envoyé. C'est une très grosse progression par rapport aux dernières législatives. Donc voilà, les signaux sont au vert.
Une dynamique historique, mais sera-t-elle suffisante pour que les héritiers du Front National s'installent à Matignon? Car Jordan Bardella, le président du parti, l'a dit, répété, affirmé tout au long de la campagne.
Si demain je suis en capacité d'être nommé à Matignon et que je n'ai pas de majorité absolue parce que les Français ne m'ont pas donné de majorité absolue, je refuserai d'être nommé.
La majorité absolue, je le rappelle, c'est au moins 289 sièges à l'Assemblée. Ce matin sur France 2, Sébastien Chenu, vice-président du RN, a changé de discours. Celui qui a été réélu dès le premier tour dans sa circonscription du Nord, avec un peu plus de 58% des voix, a salué une formidable victoire historique. Avec, je le cite, « la possibilité de créer une majorité différente, large, unie pour redresser le pays ». Alors comment expliquer cette déferlante Rassemblement National? Et qui sont ces électeurs qui ont choisi sans trembler et avec détermination le RN dès le premier tour? Pour tenter de comprendre, je vous propose de remonter le temps. Nous sommes le 21 avril 2002. Séisme politique en France. Jean-Marie Le Pen arrive au second tour de l'élection présidentielle juste derrière Jacques Chirac et devant Lionel Jospin.
Bonjour à tous. La nouvelle a fait l'effet d'une bombe. Jean-Marie Le Pen affrontera Jacques Chirac dans deux semaines au second tour de la présidentielle. Le candidat du RPR a recueilli 19,67% des voix contre 17,02% pour le représentant du Front National. Lionel Jospin, lui, essuie une véritable défaite avec 16,07% des suffrages.
C'était il y a 22 ans. Déferle alors dans la rue des millions de Français qui se mobilisent pour dire non au Front National.
Chirac, parce qu'il faut voter Chirac, sinon il y aura Le Pen et Le Pen, on n'en veut pas.
Certains électeurs sont aussi persuadés que le choix Le Pen n'a pas été réfléchi.
Moi, je suis sûre que parmi tous ces gens qui ont voté Le Pen, il y en a beaucoup qui n'ont pas mesuré la portée de leur geste. Il y en a beaucoup qui ont fait un vote de colère, d'opposition. Mais c'est très grave et c'est très important que ces gens-là en prennent conscience pour le deuxième tour.
Une analyse confortée à l'époque par certains politologues comme Pascal Perrineau du Centre d'études de la vie politique française.
C'est un électorat qui a voté Le Pen non pas pour qu'il soit président de la République. C'est un électorat qui n'a pas voté Le Pen parce qu'ils étaient attachés à sa personne. C'est un électorat qui a voté avant tout pour envoyer un message d'opposition aux autres candidats, à l'ensemble de la classe politique. On est véritablement au cœur d'un véritable vote protestataire.
Jean-Marie Le Pen, lui, appelle à essayer un parti qui ne l'a jamais été jusque-là.
N'ayez pas peur de rêver. Vous, les petits, les sans-grades, les exclus, ne vous laissez pas enfermer dans les vieilles divisions de la gauche et de la droite. Vous qui avez supporté depuis 20 ans toutes les erreurs et les malversations des politiciens, vous les mineurs, les métallos, les ouvrières et les ouvriers de toutes ces industries ruinées par l'euro-mondialisme de Maastricht.
Finalement, Jean-Marie Le Pen va perdre lourdement.
Il est 20h, voici notre estimation des résultats de l'élection présidentielle. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Jean-Marie Le Pen, 17,9% des voix.
Une lourde défaite pour le FN, suivie par un zéro pointé à l'Assemblée.
Mesdames et messieurs, il n'y aura pas de député Front National à l'Assemblée nationale.
2002, un tournant pourtant pour le parti du Front National, car c'est cette année-là que Marine Le Pen va entreprendre un long chemin de dédiabolisation du parti de son père, dont les propos ont longtemps collé à l'image du FN. Nous sommes en 1987.
Certains propos tenus hier par Jean-Marie Le Pen ne vont certainement pas manquer de provoquer bien des réactions dans le monde politique et dans l'opinion. En réponse à la question d'un confrère du grand jury RTL Le Monde à propos des chambres à gaz, le président du Front National a répondu « Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, je n'ai pas pu moi-même en voir, je n'ai pas étudié spécialement la question, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. »
Le journaliste qui l'interroge à l'époque lui rétorque alors « 6 millions de juifs, vous pensez que c'est un point de détail ? »
Réponse de Jean-Marie Le Pen, « Voulez-vous me dire que c'est une vérité révélée à laquelle tout le monde doit croire, que c'est une obligation morale ? Je dis qu'il y a des historiens qui débattent de cette question. »
En 2002, encouragé par le résultat du 21 avril, Marine Le Pen avance ses pions et comprend qu'il faut lisser les idées pour passer.
J'ai bénéficié d'une sorte de formation professionnelle continue en étant à la proximité de mon père. Je pense que c'est plus efficace que sciences politiques de vivre pendant 25 ans avec Jean-Marie Le Pen à ses côtés.
L'ascension politique de cette jeune mère de 3 enfants, divorcée et tout récemment remariée, inquiète parfois certains dirigeants historiques de la formation d'extrême droite. Marine Le Pen balaye les suspicions d'un revers de la main. Il faut, dit-elle, savoir diversifier les images et les personnes pour emporter l'adhésion du plus grand nombre.
En 2014, père et fille vont se déchirer ouvertement, car dans une vidéo sur le site du Front National, Jean-Marie Le Pen va s'en prendre à plusieurs artistes qui ont pris position contre le FN. Guy Bedos, Yannick Noah et Patrick Bruel.
Et Monsieur Bruel aussi.
Ah oui, ça ne m'étonne pas.
Oui, voilà.
Écoutez, on fera une fournée la prochaine fois.
Des propos qui vont entraîner une rupture.
La crise au Front National, crise politique, crise familiale aussi. Jean-Marie Le Pen, rappelé à l'ordre après sa phrase sur Patrick Bruel, réplique à sa propre fille. Il nie toute faute politique et s'en prend aux dirigeants actuels du FN.
Certains sympathisants du Front, eux aussi, prennent leur distance.
Jean-Marie, non, pour moi, il incarne plus rien du tout. Non, non, je trouve ça, ce qu'il a dit, lui, c'est déplacé, c'est même grave. Alors que Marine, elle, c'est pas ça, quoi.
Ça casse le travail qu'elle fait. C'est pour ça qu'il faudrait qu'il se mette dans le recul, qu'il laisse sa fille gérer et que lui, hop, s'enlève du parti parce que ça gâche tout, quoi.
Il aurait pas dû dire ça par rapport à sa fille qui lutte justement contre. Qu'elle veut que ce soit plus correct, moins agressif.
Les années vont passer, la dédiabolisation va fonctionner. Les idées extrêmes vont être effacées et des prises de position vont surprendre. Le 16 juin 2024, Serge Klarsfeld, avocat, historien rescapé de la Shoah, va parler d'un rassemblement national qui a fait sa mue et appelé à voter pour le RN face à la France insoumise. Marine Le Pen, qui a aussi adouci son image en parlant de sa passion pour ses chats. Ici, en 2022, pendant la campagne présidentielle, face aux grandes gueules sur RMC.
Vous avez 6 chats, c'est ça ?
J'ai 6 chats, oui.
Donc les 6 iront à l'Élysée.
Exactement.
Plus en descendant.
Le parc est grand.
Et plus les bébés qui feront, puisque vous savez, je suis éleveuse de chats.
Vous connaissez tous les noms ?
Je connais les noms de mes 6 chats, vous plaisantez, j'espère.
Non, allez-y.
Jazz, Paloma, Chadé, Chalimar, Oural et Picolina.
Eh bien, c'est là-dessus que nous terminerons ce Face au GG.
Lors des dernières législatives, 89 députés RN ont donc été élus. Ils pourraient être 3 fois plus nombreux le soir du 7 juillet. Bonjour Bernard Sananès.
Bonjour.
Vous êtes le patron de l'Institut de sondage Elab et avec nous également Erwan Lecoeur, sociologue, politologue, spécialiste de l'extrême droite. Bernard Sananès, je commence avec vous. On peut parler de déferlante pour le Rassemblement National, pour ses législatives.
En tout cas, c'est un succès jamais atteint par le Rassemblement National. Avec 33% des voix, il obtient avec ses alliés autour d'Éric Ciotti un score qu'il n'a jamais atteint ni en pourcentage ni en voix, à l'exception du second tour de l'élection présidentielle. Il a rassemblé hier 10,7 millions de voix. C'est plus que le premier tour de la présidentielle, 8,4 millions pour Marine Le Pen. C'est à peine moins que le second tour de l'élection présidentielle. Donc on le voit, cette dynamique, elle est extrêmement forte. Et surtout, elle traduit une chose que l'on avait déjà vue aux européennes, c'est l'homogénéisation du vote pour le Rassemblement national sur tous les territoires et dans tout ou presque les sociologies. En fait, ce que l'on observe, c'est que le vote Rassemblement national, qui s'est construit sur des bastions territoriaux, ça a commencé dans le sud-est de la France, puis dans le Nord-Pas-de-Calais, puis dans les régions désindustrialisées, avant de s'étendre aujourd'hui, on l'avait vu aux européennes, en Bretagne, dans l'ouest, dans le sud-ouest, autour du Massif central, à l'exception de l'Île-de-France et des grandes villes, le RN progresse dans tous les territoires.
Erwan Lecoeur, est-ce qu'on peut faire un portrait robot de l'électeur du Rassemblement National ?
Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui votent pour le Rassemblement National et il est de plus en plus difficile de faire un portrait robot parce que à une époque, on avait des gens qui venaient plutôt de la droite. C'était les années 80. C'est ce qu'on avait appelé les électeurs droitiers qui votaient pour Jean-Marie Le Pen. Puis dans les années 90, on a eu les électeurs plus populaires, notamment dans le nord de la France et le bassin industriel désindustrialisé. Et il y a eu un deuxième électorat qui est arrivé, un troisième est arrivé ensuite dans les années 2000 avec Marine Le Pen notamment, plus féminin, plus jeune également, et plus dispersé sur le territoire. Et enfin, aujourd'hui, il y a un électorat massif qui est arrivé ces dernières années, qui vote pour Marine Le Pen, bien entendu, mais aussi pour Jordan Bardella, et qui est beaucoup plus normalisé, beaucoup plus moyennisé, dit-on en sciences politiques, qui ressemble à la moyenne des Français. Il y a de plus en plus de femmes, de jeunes, à peu près comme pour les autres électorats. La particularité, c'est que c'est beaucoup de gens qui sont entre 35 et 65 ans, pas tellement de personnes au-delà de 65 ans qui votent très à droite, souvent, ou plus exactement pour la droite traditionnelle et pas pour l'extrême droite, et pas non plus en tête chez les jeunes. Par contre, on va trouver des gens qui sont un peu moins diplômés, qui vivent en dehors des villes, et en général, des gens qui sont dans les classes moyennes inférieures ou classes moyennes supérieures.
Sur les 76 députés élus dès le premier tour, 39 le sont chez le Rassemblement National. Bernard Sananès, qu'est-ce que ça veut dire du vote RN ?
C'est la première fois que le Rassemblement National réussit à faire élire des députés dès le premier tour des élections législatives. Ça veut dire, réexpliquons pour ceux qui ne suivent pas ça de près, obtenir 50% dès le premier tour quand il y a souvent 4, 5 ou 6 candidats. Donc c'est un vote qui est extrêmement ramassé, qui montre l'adhésion. On a souvent dit que le vote RN était un vote de rejet, de protestation. Il garde une dimension protestataire, mais il est pour beaucoup d'électeurs, pas pour tous, mais pour beaucoup d'électeurs, un vote d'adhésion aux thèses et aux programmes défendus par Marine Le Pen et par Jordan Bardella.
La dédiabolisation du parti Erwan Lecoeur, portée essentiellement par Marine Le Pen depuis 2002, vous diriez que ça a fonctionné ?
Le terme de dédiabolisation, en réalité, date des années 80. C'est déjà une stratégie que Bruno Maigret, qui était directeur de campagne de Jean-Marie Le Pen en 1988, avait déjà mis en avant. Il voulait que Jean-Marie Le Pen cesse de faire des esclandres, de provoquer, des problèmes médiatiques. Cette dédiabolisation, elle a pris place dans les années 90 avec un travail sur la manière de s'exprimer. Les militants avaient une sorte de fascicule très important où on leur disait comment ils devaient parler aux médias, à la presse et aux électeurs potentiels. Jean-Marie Le Pen mettait en difficulté cette dédiabolisation. Marine Le Pen, elle, a réussi la dédiabolisation beaucoup plus que son père, bien entendu. Elle a beaucoup plus travaillé ce point-là. Et ces dernières années, on peut même parler de normalisation, à la fois de la parole de Marine Le Pen, mais aussi de la parole des autres porte-parole au sein du Rassemblement national que l'on a vu apparaître. Et évidemment, le premier d'entre eux aujourd'hui, à savoir Jordan Bardella, qui quasiment ne dit quasiment plus rien qui ressemble à ce qu'a pu être le Front National, sauf quelques petits rappels ici ou là sur les étrangers, sur l'immigration, sur des choses comme cela, mais avec un discours beaucoup plus policé, beaucoup plus normalisé, je dirais même un discours moyennisé qui parle à la moyenne des Français, quels qu'ils soient, et de quelque obédience politique qu'ils viennent.
Il y a aussi un bond de la participation qui est assez spectaculaire, 66%. C'est une mobilisation qu'on peut analyser de deux manières, vous diriez, avec notamment l'espoir des militants RN. Bernard Sananès.
Pas seulement, je pense qu'il y a, pour des législatives qui étaient à nouveau décorrélées de l'élection présidentielle, le sentiment que le vote pouvait servir à quelque chose, pouvait servir à un changement, que l'on soit électeur du Rassemblement national ou du Nouveau Front populaire, que ce vote pouvait servir de moteur au changement. Et quand on votait aux législatives comme en 2022 ou en 2017 ou en 2002, en 2007, en 2012, voilà, j'ai fait la liste. Quand on votait au lendemain de l'élection présidentielle, on se disait que de toute façon, le président étant déjà élu, notre vote aux législatives ne changerait pas grand-chose. Et à l'exception de 2022, où il y a une majorité relative, ça a été le cas. Là, les électeurs se sont dit, ma voix peut compter, ma voix peut changer quelque chose. Et ça donne cette participation, un record qu'on n'avait pas connu depuis plusieurs dizaines d'années. Une participation qui a profité d'ailleurs à tous les blocs de manière presque indifférenciée, un tout petit peu plus à la gauche, notamment avec le vote jeune, mais c'est vrai que la surcroît de participation a été spectaculaire, très important. On verra ce qu'il en est dimanche, on verra maintenant s'il reste des réserves et chez qui, dans quel camp. Ça, c'est une des inconnues de dimanche prochain.
Erwan Lecoeur, pour les électeurs du Rassemblement national, Jordan Bardella, c'est quoi? C'est l'option du changement? On a tout essayé sauf le RN, donc on vote pour eux?
Avec Jordan Bardella, il y a en effet la proximité que Jordan Bardella peut avoir avec une partie de son électorat, sa jeunesse, son côté « je n'ai pas fait d'études, mais je suis un peu comme vous, je parle normalement », et cette qualité extrême en termes de communication, cette capacité à parler à peu près de tous les sujets sans jamais rentrer trop dans les détails, notamment parce que parfois Jordan Bardella se trompe. Sur l'agriculture, il s'était trompé. Sur les retraites, il s'était un peu trompé aussi. Là, récemment, sur les binationaux, il ne disait pas exactement ce qui était dans le programme, en tout cas tel que Marine Le Pen l'avait à nouveau modifié. Et le problème n'est pas tellement de savoir si Jordan Bardella dit vrai ou dit les bonnes choses, mais en effet, sa capacité à apparaître comme un changement par sa jeunesse, par sa nouveauté, par la façon qu'il a aussi de parler aux plus jeunes, mais aussi à d'autres. Et donc, aujourd'hui, en effet, une des choses qui fait le succès du Rassemblement national et de Jordan Bardella dans cette élection, c'est bien sûr l'idée qu'on n'a jamais essayé. L'extrême droite de Jordan Bardella n'a jamais été au pouvoir. Et donc, tout un tas de gens se disent « Pourquoi ne pas essayer ?» puisque la gauche, la droite, on a déjà essayé et on a vu que ça ne nous satisfaisait pas complètement.
Celui qui met un bulletin RN dans l'urne aujourd'hui en 2024, sait-il à quoi ressemblait le Front National à sa création ?
Les gens qui votent aujourd'hui pour le Rassemblement National en 2024 ne savent pas forcément ce qu'était le Front National en 1972, bien entendu, quand il a été créé par Ordre Nouveau, un parti néo-fasciste, et qu'il a été confié au président de l'époque, qui avait été nommé par ce parti en question, à savoir Jean-Marie Le Pen. L'objectif était, pour les élections de 1973, de réussir à rassembler les groupuscules de l'extrême droite ultra-radicale qui n'avaient pas d'expression parlementaire et qui ne se présentaient pas aux élections. Évidemment, le Front National a évolué au fil du temps. D'abord avec Jean-Marie Le Pen. Pendant au moins 10 ans, on n'en a pas du tout entendu parler. Il faisait de très mauvais scores aux élections jusque à peu près en 1983, au municipal de 83 à Dreux et surtout en 1984 aux européennes, où là, le Front National, à l'époque, a fait 11% et c'était la première victoire des élections pour Jean-Marie Le Pen. Ensuite, on a connu les années 90 avec beaucoup d'évolution du parti à la tête duquel était toujours Jean-Marie Le Pen. Et Jean-Marie Le Pen, bien sûr, c'est le 21 avril 2002 qu'on le voit accéder au second tour de la présidentielle. Pour autant, son électorat et surtout les gens qui votent pour le Rassemblement National aujourd'hui pensent beaucoup que Marine Le Pen a modifié ce qu'était le Front National. C'est assez faux dans l'ensemble. Le Rassemblement National continue de ressembler énormément au Front National des années 90, pas celui des années 70 peut-être, mais des années 90, oui. Et la stratégie qui est mise en œuvre aujourd'hui, de faire exploser la droite pour récupérer ses électeurs, c'est celle qu'avait proposée Bruno Maigret dans les années 90.
Le Front Républicain aujourd'hui n'a plus de sens en France, Bernard Sananès.
Le Front Républicain, on le voit, il a repris des couleurs hier soir. Maintenant, il n'atteindra sans doute pas le niveau de barrage qu'on avait connu, notamment en 2002. C'est là où le Front Républicain était à son apogée, quand il fallait empêcher Jean-Marie Le Pen d'accéder à l'Élysée. Mais on l'a vu en 2022, il s'est considérablement érodé. On a même vu des électeurs RN, minoritaires certes, voter pour la NUPES, ou des électeurs NUPES, minoritaires également, voter pour le Rassemblement National quand il s'agissait de s'opposer pour eux à la réforme des retraites. Donc le Front Républicain va se reconstituer, mais il va se reconstituer, à mon avis, que partiellement.
Il paraît fragile, d'ailleurs, quand on voit aujourd'hui certaines figures, notamment de la majorité, dire « je ne voterai pas LFI, je ne voterai pas, évidemment, RN ». Les électeurs sont un peu perdus.
Oui, ils peuvent être un peu perdus. On va prendre un exemple dont on parle beaucoup depuis hier soir. C'est l'exemple de Madame Borne, candidate dans le Calvados. Les électeurs de la France insoumise et du Nouveau Front populaire vont être appelés par leurs états-majors à voter pour l'ancienne Première ministre, qu'ils ont combattu très fortement sur la réforme des retraites. C'est vrai que ce sera une circonscription à suivre et elle nous donnera une indication du niveau de Front Républicain et de savoir si ce Front Républicain s'est reconstitué dans la perspective de faire barrage au Rassemblement National.
Bernard Sananès, les triangulaires sont évidemment décisives et forcément à l'avantage du RN.
Tout à fait. D'abord parce qu'il y a beaucoup de triangulaires qui s'annoncent très serrés quand on regarde les chiffres, parfois entre 2 et 5 points d'écart entre les trois candidats. Deuxièmement, mais ça on sera fixé demain soir, beaucoup de candidats ont indiqué qu'ils allaient se retirer. Combien sur les 320 triangulaires, quand ils seront troisième, mais troisième avec quel écart? Vous n'êtes pas dans la même situation si vous avez 2 ou 3 points de retard sur votre second que si vous en avez 10 ou plus et que vous dites tiens, c'est perdu, donc je vais me retirer. Donc c'est vrai qu'on y verra plus clair mercredi, qu'on fera une nouvelle projection à partir d'un nouveau sondage en fin de semaine et que dimanche on aura un effet des triangulaires qui de toute façon atteindra un nombre jamais atteint depuis 1997 où il y avait eu au final 79 triangulaires.
Merci Bernard Sananès, merci Erwan Lecoeur d'avoir tous les deux répondu à mes questions pour le titre à la une. Et merci à Marie Aimé pour le montage de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager, à le commenter et à le noter sur les plateformes de podcast. Le titre à la une, c'est tous les jours, du lundi au vendredi, sur toutes les plateformes bien sûr, et sur BFM Radio dans BFM Soir avec Zachary Legros à 19h30.
Saison 2023-2024, BFM TV est la première chaîne info de France, et ce, depuis 16 ans. 97% des Français regardent BFM TV, 12,3 millions de téléspectateurs chaque jour. BFM TV, première sur l'info.